Lecture des lettres des pères du désert, une émission proposée par Hélène.
Voici une série d'émissions consacrées aux lettres des pères du désert, le plus souvent adressées à leurs moines et concernant la vie d'Anachorète, c'est-à-dire seule au désert, ou celle de Cénobite, c'est-à-dire vivant dans un monastère. Ces écrits sont d'une grande fraîcheur, malgré les quelques 15 siècles qui nous séparent d'eux, et d'une grande utilité pratique pour ceux qui désirent suivre le chemin du Christ. Ils nous incitent à l'humilité pour s'opposer radicalement à l'orgueil de Satan. Ils nous incitent aussi à l'amour sans limite pour entrer dans le royaume dès ce siècle.
Après avoir parlé la dernière fois de l'orgueil, de la vaine gloire, de la douceur et de l'innocence, aujourd'hui abordons, avec saint Jean Climac, l'humilité et le discernement.
De l'humilité, de cette destructrice des passions, la très sublime humilité qui est enracinée dans le sentiment intérieur. L'humilité, c'est le sentiment d'une âme contrite et le renoncement à sa volonté propre. Celui qui l'a prise pour épouse est doux, indulgent, plein de compunction, compatissant envers tous, paisible, rayonnant de joie, docile, peu contrariant, vigilant, actif, et pour tout dire, impassible, car le Seigneur s'est souvenu de nous dans notre humilité et nous a délivrés de nos ennemis, de nos passions et de nos souillures. Il n'est pas dit « j'ai jeûné, j'ai veillé ou j'ai couché sur la terre nue », mais je me suis humilié et aussitôt le Seigneur m'a sauvé. Le repentir relève. L'affliction frappe à la porte du ciel et la sainte humilité l'ouvre. Je proclame et je vénère la Trinité dans l'unité et l'unité dans la Trinité. Le soleil illumine tout ce que nous voyons, et l'humilité fortifie tout ce que la raison nous fait faire. En l'absence de la lumière, tout est obscur. Là où l'humilité fait défaut, tout ce que nous possédons se flétrit. Et cette vertu est la seule qui, pour les démons, demeure inimitable. Si quelqu'un s'est humilié dans son cœur, ses lèvres ne laisseront pas échapper de paroles orgueilleuses, car la porte ne peut pas livrer passage à ce que le trésor ne renferme pas. Quand le cheval est seul, il s'imagine souvent qu'il galope, mais quand il court avec d'autres, il découvre sa lenteur. Quand notre pensée ne s'élève plus au sujet des dons naturels, c'est signe qu'elle commence à recouvrer la santé. Mais aussi longtemps qu'elle sent cette puanteur, elle ne peut pas percevoir l'agréable odeur du parfum. Nous qui voulons connaître notre état, ne cessons pas de nous interroger nous-mêmes, et si avec un sentiment profond du cœur, nous estimons que notre prochain est meilleur que nous à tous égards, c'est que la miséricorde est proche de nous. Pour s'exciter à l'humilité, certains, durant toute leur vie, se servent du souvenir de leurs péchés passés, même déjà pardonnés, et par ce moyen frappent en plein visage leur vaine estime d'eux-mêmes. D'autres pensent à la passion du Christ et se considèrent toujours comme des débiteurs. D'autres se tiennent pour peu de choses à cause de leurs manquements quotidiens. Chez d'autres, les tentations sans cesse renaissantes, les faiblesses et les péchés ont mortifié l'orgueil. D'autres, par leur pénurie de grâce, ont acquis la mère de toutes les grâces. Il y en a aussi, mais en existe-t-il encore? Il ne m'appartient pas de le dire, qui au sujet des dons mêmes de Dieu, et dans la mesure où ceux-ci s'accroissent, s'humilient eux-mêmes et passent ainsi leur vie, en se considérant comme indignes de telles richesses, et comme si chaque jour ajoutait à leur dette. Voilà l'humilité, voilà la béatitude, voilà la parfaite récompense. Quand tu verras ou entendras dire que quelqu'un est parvenu en peu d'années à la plus sublime impassibilité, tu devras en conclure qu'il n'a pas emprunté d'autre chemin que ce bienheureux raccourci de l'humilité. C'est une sainte association que forment la charité et l'humilité. La première élève, et la seconde, soutenant ceux qui ont été élevés, ne permet jamais qu'ils tombent. J'ai entendu dire quelqu'un, avec un sentiment profond de l'âme, « Non, pas à nous, Seigneur, non, pas à nous, mais à ton nom donne la gloire. » Car il savait que la nature humaine ne peut pas, telle qu'elle est, recevoir des éloges sans dommage. C'est de toi que viendra ma louange dans la grande assemblée, c'est-à-dire dans le siècle à venir. Auparavant, en effet, je ne peux pas la supporter sans péril. Les nerfs qui fortifient l'humilité et les voies qui y conduisent sont la non-possession, l'exil volontaire et secret, la dissimulation de sa propre sagesse, la simplicité dans les paroles, la demande de l'aumône, le silence sur la noblesse de sa naissance, le renoncement à la liberté de parole et d'allure, l'éloignement du bavardage. Mais ce ne sont pas là des signes qu'on y est parvenu. Rien ne peut humilier l'âme autant que cet état de dénuement où l'on doit mendier sa subsistance, car c'est seulement alors que nous nous montrons amis de la sagesse et amis de Dieu, quand, pouvant nous élever, nous fuyons irrévocablement l'élèvement. Si tu prends les armes contre quelque passion, prends pour allié l'humilité, car elle marchera sur l'aspic et sur le basilic, c'est-à-dire sur le péché et sur le désespoir, et elle foulera aux pieds le lion et le dragon, c'est-à-dire le diable. Et le dragon du corps. L'humilité est un tourbillon céleste qui peut aspirer l'âme de l'abîme du péché et l'élever jusqu'au ciel. Quelqu'un vit un jour, dans son cœur, la beauté de l'humilité, et saisi d'admiration, lui demanda de lui dire le nom de celui qui l'avait engendré. Avec un sourire lumineux et paisible, elle répondit « Pourquoi désires-tu tellement savoir le nom de celui qui m'a engendré ? Il n'a pas de nom, et je ne puis te le dire avant que tu n'aies fait l'acquisition de Dieu. À lui soit la gloire dans les siècles. Amen. » L'abîme engendre la source, et la source du discernement, c'est l'humilité. Du discernement, des pensées, des passions et des vertus. Le discernement est et se définit ainsi: la perception certaine de la volonté de Dieu en toute occasion, en tout lieu et en toute circonstance. Elle se rencontre seulement chez ceux qui sont purs de cœur, de corps et de bouche. Le discernement est une conscience sans souillure et une sensibilité purifiée. Il y a trois causes générales à tous les combats que les démons nous livrent. ce sont la négligence, l'orgueil ou l'envie des démons. La première est déplorable, la seconde est très misérable, mais la troisième est une bénédiction. Dans toutes les actions que nous faisons selon Dieu, les démons nous creusent trois précipices. Ils s'efforcent d'abord d'empêcher le bien de se faire. En second lieu, après leur première défaite, ils essayent de faire qu'il ne soit pas selon Dieu. Mais quand ils ont échoué, même en cela, ces larrons se présentent doucement à notre âme et nous félicitent de vivre en tout selon Dieu. Il faut combattre le premier par le zèle et la crainte de la mort, le second par la soumission et les humiliations, et le troisième en se condamnant soi-même sans relâche. Nous devons faire face à ce labeur jusqu'à ce que le feu divin pénètre dans notre sanctuaire. Alors en effet, nous ne serons plus déterminés par les prédispositions mauvaises. Notre Dieu est un feu qui consume. Toute fièvre de luxure, tout mouvement de passion, toute prédisposition mauvaise, tout aveuglement et toute obscurité intérieure et extérieure, visible et invisible. Les démons produisent généralement le contraire de ce qui vient d'être dit. En effet, lorsqu'ils ont pris possession de l'âme et éteint la lumière de l'esprit, il n'y a plus alors en nous, pauvres misérables, ni sobriété, ni discernement, ni connaissance de soi, ni honte, mais endurcissement, insensibilité, manque de discernement et aveuglement. Si la clarté de notre âme ne commence pas par s'assombrir et s'enténébrer, les voleurs ne viendront pas la voler, la tuer et la ruiner. Le vol, c'est la perte de sa richesse. Le vol, c'est de faire ce qui n'est pas bien, comme si c'était bien. Le vol, c'est l'âme captive sans le savoir. L'assassinat de l'âme, c'est la mort de l'esprit raisonnable qui tombe dans des actions infâmes. La ruine, c'est le désespoir après la transgression. Qu'ils prennent courage, ceux qui ont subi l'humiliation d'être soumis aux passions. Même s'ils tombent dans tous les précipices, s'ils se laissent prendre à tous les pièges et s'ils sont atteints de toutes les maladies, une fois revenus à la santé, ils deviennent médecins, phares, lampes et pilotes pour tous, enseignant les symptômes de chaque maladie, leur propre expérience les rendant capables d'empêcher les autres de tomber.
Thank you.
toujours à propos du discernement. Périlleuse, vraiment périlleuse, est cette mer que nous, humbles moines, nous traversons. C'est une mer remplie de tempêtes, d'écueils, de tourbillons, de pirates, de tornades, de bas-fonds, de monstres et de vagues. L'écueil pour l'âme, comprenons que c'est la colère violente et soudaine. Le tourbillon, c'est la détresse qui s'empare de l'esprit et s'efforce de l'entraîner dans l'abîme du désespoir. Le bas-fond, c'est l'ignorance qui prend le mal pour le bien. Le monstre, c'est ce corps lourd et sauvage. Les pirates sont très dangereux, fournisseurs de la vaine gloire. Ils pillent notre chargement de vertu laborieusement acquise. La vague, c'est un ventre gonflé et chargé qui nous livre aux animaux sauvages par son impétuosité. La tornade, c'est l'orgueil qui nous précipite du haut du ciel et qui, après nous avoir élevés au ciel, nous fait descendre au fond de l'abîme. Voici un excellent alphabet qui convient à tous. Obéissance, jeûne, cilice, cendre, larmes, confession, silence, humilité, veille, courage, froid, fatigue, peine, humiliation, contrition, oubli des offenses, amour fraternel, douceur, foi simple et sans recherche, insouciance des choses du monde, haine exempte de haine envers les parents, détachement, simplicité innocente, abjection volontaire. Un bon programme et une matière d'examen pour ceux qui sont plus avancés, la fuite de la vaine gloire, l'absence de colère, la ferme espérance, l'ézéchia, le discernement, le souvenir continuel du jugement, la compassion, l'hospitalité, la modération dans les reproches, la prière dans l'impassibilité, le détachement de l'argent. Et voici un modèle, une règle et une loi pour ceux qui, étant dans la chair, tendent pieusement à la perfection de l'esprit et du corps. Un cœur libéré de toute captivité, la charité parfaite, la source de l'humilité, l'émigration de l'esprit, la présence intérieure du Christ, la lumière assurée dans l'oraison, l'abondance de l'illumination divine, le désir de la mort, la haine de la vie, la fuite du corps, l'intercession pour le monde, la violence faite à Dieu, la concélébration avec les anges, l'abîme de la science, la demeure des mystères, le gardien des secrets ineffables, le sauveur des hommes, le Dieu des démons, le Seigneur des passions, le maître du corps, le supérieur de la nature, la fuite du péché, la demeure de l'impassibilité, l'imitateur du Seigneur, avec le secours du Maître.
Jesus, per te virgo, sin
C'était les lectures des Pères du désert, une émission proposée par Hélène. À son prochain rendez-vous, elle vous entretiendra encore sur le discernement avec Saint Jean Climac.